Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Nouvel épisode du Club Saint et Or ce soir. Chaque mardi, on revient sur les matchs du Rodez Aveyron Football et on se projettera sur la prochaine rencontre de ce samedi contre Guingamp. Jean-Charles Virlogeux est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Notre invité est défenseur, piston pour Rodez, arrivé cet été en provenance de Auxerre, Raphaël Lipinski, bonsoir.
Bonsoir.
Dans cette première partie, on va revenir sur votre rencontre, la 13e journée de Ligue 2 et le déplacement à Quevilly, défaite 3-1 sur la pelouse de Robert Diochon. Déplacement compliqué et délicat avec des changements. Dès le coup d'envoi, on va justement rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Vous avez évolué dans un schéma plutôt inédit dès le coup d'envoi. Un 3-4-3, on peut le caractériser comme ça. C'était quoi justement cette idée dès le début du match?
Je pense que le coach voulait mettre un peu plus d'aspect offensif dès le départ parce qu'on savait que même si on jouait contre le dernier du classement, on faisait face à une équipe qui avait certains atouts offensifs et qui pouvaient nous mettre en difficulté sur certains aspects si on restait en 3-5-2. Donc le coach a opté pour un 3-4-3 pour qu'on ait plus de monde sur les côtés et qu'on ait cette facilité à contrer leurs relations côté pour ensuite être plus performant offensivement.
Rappelons que ce n'est pas la première fois que Rodez utilise ce fameux système-là, ce 3-4-3. Il avait notamment déjà été essayé sous l'ère Laurent Peyrelade. Fut un temps que les moins de 2 ans, maintenant, ne peuvent pas connaître.
Et ça change beaucoup de choses pour un piston comme vous, du coup, de passer d'un 3-5-2 à un 3-4-3, ou c'est exactement la même chose?
Non, il y a certaines choses qui changent. Après, je pense que dans toutes mes tâches, ça reste un peu pareil. J'ai un joueur qui est devant moi pour m'apporter plus offensivement, donc il peut avoir plus de relations, plus de combinaisons à faire sur le côté, avec un peu plus de solutions, mais je pense que dans la globalité, ça reste pareil.
Et vous diriez que ça a marché, ce coup tactique? Alors évidemment, on sait que vous avez perdu, mais vous pensez que ça vient de ça ou
Non, je pense pas que le changement de schéma tactique, ça soit à l'origine de notre mauvais match.
Surtout que ça a changé plusieurs fois en cours de match. Hein.
Oui, il y a eu plusieurs changements. Après, je pense que c'est surtout nous, dans l'approche du match et dans les ingrédients qu'on n'a pas su mettre pour faire une bonne entame, pour faire une bonne première mi-temps et pour faire un bon match globalement. C'est nous-mêmes dans notre approche et dans les ingrédients qu'on n'a pas pu mettre.
C'est vrai que quel que soit le schéma, c'est un match qui a encore révélé les carences défensives de Rodez, notamment sur phase arrêtée. Alors là, on n'est pas sur des touches, hein, mais c'est vrai que sur le premier et le troisième but de Quevilly, on a vraiment des duels perdus, des erreurs de marquage. Petite question d'ailleurs, sur les coups de pied arrêtés, Rodez a l'habitude de défendre plutôt en zone ou en individuel?
C'est plutôt de l'individuel. Mmh. Plutôt de l'individuel, chacun son homme. Donc là, ouais, c'est sur le but de ce week-end. Du coup, c'est de l'un pour un. Donc, c'est des duels à gagner dans la surface. Mmh. Ça n'a pas été le cas sur le premier but. Après, c'est certes, on prend 3 buts ce week-end, mais il y a le deuxième but qui est une frappe contrée, donc
ouais,
avec un peu de réussite.
On va y revenir, oui. Mmh.
Et le troisième avec une petite erreur, mais...
Il y a quelqu'un qui est oublié dans le dos de la défense.
Ouais. C'est ça, mais... Je pense que c'est pas des choses qui nous arrivent souvent. C'est le troisième but, c'est une attaque rapide. On n'avait pas encore pris de but sur attaque rapide depuis le début de la saison. Donc c'est des choses qu'on n'a pas su faire et c'est surtout dans les duels et dans l'impact qui ça nous a mis en défaut et du coup on a pris ces buts-là.
Bon, en tout cas, défaite 3-1, on en a parlé il y a quelques instants. Pire défense de Ligue 2 au moment où on se parle du côté de Rodez à égalité avec Dunkerque, 21 buts pris en 13 rencontres et toujours aucun clean sheet hein, en compétition officielle en Ligue 2, si ce n'est celui de Giovanni Hag en fin de match à Bordeaux. Est-ce qu'on lui accepte?
On lui accepte.
Il est devenu en tout cas le 9e joueur de champ à évoluer au poste de gardien en cours de rencontres en Ligue 2 depuis octobre 2014, Jean-Charles.
C'est aussi la 7e fois que Rodez concède l'ouverture du score. Alors, c'est pas très inquiétant en général. On a d'ailleurs bien cru que Rodez allait revenir dans le match, puisque comme d'habitude, vous avez égalisé. Un but qui vient confirmer le bon jeu de tête de Kylian, dont on parlait avec lui lors de son passage il y a 2 semaines. Et le sens du but d'Andreas Utonji, qui a bien flairé le coup. Là, du coup, on se dit, Rodez va nous faire du Rodez et sauver sa peau. C'est aussi ce que vous vous dites à ce moment-là?
Oui, je pense qu'on a toujours cette envie, quand on prend un but, de revenir. On n'est pas une équipe qui baisse la tête ou qui lâche les armes. Donc on sait que même si on prend 1 ou 2 buts, on fait tout pour revenir et on met les ingrédients qu'il faut pour revenir. Là, à partir du moment où on égalise, ça, je pense que ça nous fait du bien. On a commencé à remettre de l'entrain, à remettre des choses positives. On a même marqué le deuxième but, malheureusement, il a été hors jeu. Mais quand à ce moment-là, au but du 1 partout, on se dit que tout est relancé.
Alors malheureusement, les choses vont tourner autrement. C'est vrai qu'il y a des circonstances atténuantes pour Rodez dans ce match. Hein. Quevilly reprend l'avantage sur ce coup du sort. Cette frappe de Delaurier-Chaubec est déviée par le dos de Bradley Danger. Autrement, pas sûr qu'elle trompe Sébastien Cibois. Hein. Vous êtes d'accord ?
Oui, je suis d'accord que si elle n'est pas contrée, je pense que Seb est sur la trajectoire. Oui.
Et puis, il y a quand même votre périple de samedi. Dans son ensemble, avion retardé le matin, et puis pas qu'un peu, hein, du coup, matinée a tué le temps et une collation qui a dû être prise à Rodez. Alors, on va pas trop faire de pub, on en a fait samedi hein, pendant la retransmission, mais vous avez eu le temps de faire un bowling du coup ?
Non, du tout, c'est pas l'idée principale quand on arrive au bowling, on veut prendre le repas.
Qu'est-ce qui se passe dans votre tête justement à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous vous dites ?
En vrai, je pense pas que ça nous ait impacté plus que ça. On veut tout simplement juste se préparer au match, avoir l'esprit concentré sur le match à 200%. Qu'il nous arrive telle ou telle chose pendant la journée, c'est des aléas, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je pense que si on s'attarde sur ça, je pense que le match il est perdu d'avance. Donc, on préfère rester concentré et manger tranquillement la collation du midi et se concentrer sur le match.
Bon, en tout cas, départ en avion retardé. Derrière, parce que ça ne s'arrête pas là, hôtel pas prêt pour vous recevoir, bouchon sur le trajet du stade. On n'était pourtant pas un vendredi 13 ou un samedi 13, c'était pas non plus Halloween, mais est-ce que ça peut vous agacer quand même, ce genre d'enchaînement négatif ? Est-ce que ça agace les joueurs ? Est-ce que ça agace l'équipe ?
C'est sûr que dans un coin de nos têtes, ça fait tilt et on commence un peu à s'agacer et ça nous énerve un peu. Mais on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Ça s'est déjà arrivé à Laval sur un avion sur le retour. Donc on sait que c'est des choses qui arrivent.
Après, le retour, c'est peut-être moins impactant, entre guillemets, que le trajet aller, quoi.
Bien sûr, mais bon, on sait que quoi qu'il arrive,
c'est pas l'idéal, quoi.
C'est pas l'idéal et on nous a pas dit qu'on n'allait pas jouer le match ou autre. Donc il y a toujours l'envie de rester concentré et de faire le match du mieux possible.
Mais ça fait quand même, c'est suffisant pour perturber, pour jouer honnêtement sur le contenu du match derrière.
Moi, je pense pas. Je pense pas qu'on doit se prendre ça comme excuse ou comme problème qui nous a fait déjouer. C'est tout ce qui se passe dans la journée à partir du coup de sifflet, du coup d'envoi. Tout est oublié, on bascule dans le match et on fait ce qu'on a à faire. Donc je ne pense pas que ce soit une excuse.
Parce qu'on sait que le footballeur, le sport de haut niveau, c'est fait de repères, de routines. Quand on vient casser ça, on peut imaginer que sur le mental, ça peut un peu faire sortir de sa concentration. On peut le comprendre, hein.
Oui, tout à fait. Après, on est professionnel, donc on se doit de rester concentré et de ne pas faire attention à ce genre de choses pour après être désorienté ou ne pas être dans notre match.
En tout cas, Didier Santini ne s'est pas réfugié derrière cette excuse à l'issue du match. Il n'en a pas parlé du tout. Par contre, il n'était pas content de ce qu'il a vu.
Il nous a manqué, je pense, beaucoup de choses. On n'a pas été bons. On a été très moyens et eux ont juste été meilleurs que nous dans les valeurs et dans l'engagement qu'il fallait mettre dans un match comme ça. Après, on a cherché, ils ont bien défendu, on a cherché, on n'a jamais joué vers l'avant. Eux, en 2-3 passes vers l'avant, ils pouvaient nous mettre en difficulté comme on sait le faire d'habitude. Et là, on a surjoué, on s'est fait des passes. Sans manquer de spontanéité, un peu de folie, du déchet vers l'avant, de tenter, même si un peu le vent en deuxième mi-temps, c'est aussi gênant comme en première, mais eux s'en sont sortis, ils arrivent à mettre les ballons, à faire des attaques rapides. Et nous, on les laissait toujours revenir et on était toujours mal placés. Ils ont été meilleurs que nous, ils avaient plus envie, ils étaient plus dans l'impact, plus dans tout. C'est le premier match, je pense, où on n'est vraiment pas bon de la saison. C'était pas le moment, mais écoutez, dans une saison, ça arrive, donc il faut pas tout remettre en question. Mais bon, il faut quand même un peu se reprendre et garder les valeurs qu'on a. Et là, on les a pas tous, moi le premier, on les a pas eu, on n'a pas été bon. Et tu peux rien attendre à ce moment-là, quoi.
Y a-t-il un moment d'ailleurs pour être mauvais ? Ça, c'est une vraie question.
Vous avez 3 heures.
Quelques stats en tout cas pour corroborer les propos de votre coach. Rodez a eu la possession, en effet, 54%. Et c'est vrai que Didier Santini n'aime pas quand vous faites des passes. Quand il dit ils se sont fait des passes, oulala. Même si c'est vrai que Rodez a davantage le ballon en moyenne que les saisons précédentes, à ce point, c'est vrai que ce n'est pas forcément bon signe. Et pour ce qui est de l'engagement, c'est vrai qu'il y a eu zéro carton pour Rodez. Alors c'était déjà arrivé, et pas forcément sur des mauvais matchs d'ailleurs, puisque c'était le cas contre Saint-Étienne. Et contre Laval, où vous aviez perdu, mais avec un bon contenu. Mais c'est vrai que ce n'était pas arrivé depuis un bon moment. Pour être complet sur le sujet, d'ailleurs, Rodez n'est pas une équipe très sanctionnée. En général, vous êtes 8e au classement du fair play. 22 cartons jaunes pris, un seul rouge, celui de Lionel contre Bordeaux. La meilleure équipe à ce classement, c'est Caen. Mais il faut croire que ça ne suffit pas. Hein. En tout cas, ça n'a pas suffi à ce pauvre Jean-Marc Furlan qui vient d'être mis à pied, on le rappelle, après la défaite face à Troyes ce week-end. Caen, qui après avoir été le tube de l'été, n'a plus gagné depuis 9 matchs. Il est le 3e entraîneur écarté de ses fonctions en Ligue 2 cette saison, après Mathieu Chabert à Dunkerque, et David Guillon à Bordeaux. C'est pas forcément la solution miracle, puisque ces deux équipes sont relégables. Et oui, c'est le cas désormais des Girondins. Eux aussi, après avoir été battus par le Bastia de Régis Brouard.
Qui l'eût cru en début de saison, effectivement. Bon, on va revenir quand même sur cette rencontre face à Quevilly-Rouen Métropole, QRM. Est-ce que finalement, Rodez, je vous pose la question, Raphaël, n'a pas un peu de mal à se sublimer face aux, entre guillemets, petites équipes ?
Je pense pas. Je pense que nous, quand on prépare nos matchs, on ne voit pas de petites ou de grosses équipes. On se concentre essentiellement sur nous. Donc je pense que c'est seulement un problème de par rapport à nous, par rapport à ce qu'on n'a pas su mettre, ce qu'on n'a pas bien fait sur les petits problèmes qu'on a pu ressentir pendant le match par rapport à nos attaques ou par rapport à notre façon d'attaquer qui nous a manqué un petit peu de folie, un peu plus de risque. Donc je pense que c'est plus ça. Ouais.
On reprend juste le contexte. 17e Bordeaux, le point du match nul. Quevilly, 18e, malheureusement pas de points. Dunkerque, par contre, là, il y avait eu 3 points. Et Valenciennes, il y avait eu la défaite, on se souvient, c'était au stade Paul Lignon, où le gardien avait réalisé de multiples parades.
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile forcément de qualifier de petit telle ou telle équipe, parce qu'en plus, le classement n'est pas le même qu'au moment où les matchs ont été joués, mais en plus des petits, il n'y en a plus beaucoup hein, en Ligue 2. Mais si on raisonne en termes de budget, on va dire, il y a Pau aussi qui fait quand même partie des petits. Et c'est vrai que le déplacement de Rodez là-bas n'avait pas été fulgurant hein, à la rentrée. C'est un peu la fin de match et le retour à deux partout qui avait permis d'oublier une première heure ratée. En termes de petits, QRM, c'est un bel exemple aussi, avec tout le respect qu'on doit aux Normands. Hein. Ils étaient lanterne rouge, ils n'avaient pas encore gagné chez eux, ils n'avaient jamais marqué en premier. Et c'est vrai que forcément, en plus, le regard sur Rodez a changé. Hein. Quand le 6e du classement, c'était votre classement avant ce match, vient chez vous, on a envie de le faire tomber. Vous êtes un peu le gros pour QRM. Et du coup, c'est un résultat qui n'aurait pas forcément surpris lors de n'importe quelle autre saison depuis que Rodez est en Ligue 2. Mais là, aujourd'hui, c'est le cas. C'était un peu la sensation Rodez qui tombe chez QRM.
Ouais, Rodez 8e au moment où on se parle de ce classement de Ligue 2 BKT. On va s'intéresser à un rendez-vous que vous ne connaissez pas, Raphaël, et pourtant ô combien important dans cette émission.
Je n'ai pas dit que tu étais un con. Hein. Je dis que globalement, la question, elle est con.
Est-ce que vous avez reconnu déjà la voix de votre président ?
Oui, bien sûr.
Pierre-Olivier Murat, qui s'adressait à la personne qui se situe juste à votre gauche.
Oui, dans la foulée de ce qu'on était en train d'expliquer, est-ce que ça fait plaisir de voir que les observateurs s'étonnent quand vous perdez ? QRM fait tomber Rodez, est-ce que ça flatte un peu l'ego quand même ?
Je pense pas qu'on doit être flatté quand quelqu'un se réjouit de notre défaite, mais ça.
Enfin, se réjouit, s'étonne. S'étonne.
Ça met l'accent sur certains points, du fait que maintenant on est attendu chez pas mal d'adversaires, que sûrement notre manière de jouer peut faire peur à certains clubs, et que être attendu chez certains clubs, ça peut mettre un peu plus de pression. Mais je pense que c'est pas quelque chose qui nous dérange ou on se soucie pas forcément de ça et de ce que les autres pensent de nous. On préfère se concentrer sur nous-mêmes et avancer, prendre des points pour donner le meilleur de nous-mêmes chaque week-end.
Donc pas de satisfaction après cette défaite.
Non.
Malheureusement, c'est rarement le cas, effectivement. Bon, si on s'attarde par contre sur les bonnes choses à retenir de cette rencontre, il y en a quand même quelques-unes. Évidemment, on parle du but, qui a quand même été une satisfaction en soi. Et puis, on va parler de votre participation sur ce côté gauche. Vous avez apporté une certaine variété dans vos appels, dans vos centres également. On l'avait déjà remarqué lors de vos entrées, mais là, il fallait le faire en tant que titulaire. Ça aussi, c'est un autre défi.
Oui, c'est un autre défi. Après, je l'avais déjà fait face à Troyes le mois dernier quand le coach a fait appel à moi. Mais je pense que...
C'était pas non plus sous le même format tactique, c'est pour ça.
C'était en 3-5-2. Mais ouais, à chaque fois que je suis sur le terrain, je veux donner le meilleur de moi-même, respecter les consignes du coach et je sais ce qu'il attend de moi. Donc quand je rentre sur le terrain, j'essaye d'appliquer au mieux ces consignes.
Mmh. Une de vos incursions a failli payer, hein, puisqu'il s'agit du but refusé à Kylian pour une position active, donc de hors-jeu de Clément Després, c'est dommage. Vous avez aussi failli être récompensé à la 78e avec ce bon débordement et une frappe. L'angle est un peu fermé, mais ça se tentait.
Ouais, ça se tentait. Après, je pense que moi, j'ai surtout manqué de lucidité à ce moment-là et je me suis un peu laissé dépasser. J'ai pas fait le bon geste à ce moment-là, je pense.
Vous avez été victime d'une enflammade, pour reprendre une expression de votre président. Et puis, il y a cette action litigieuse sur le choc entre Kylian et le gardien de QRM suite à un deuxième ballon que vous avez bien relancé dans la surface. En gros, même s'il y a la défaite, on va dire que vous avez quand même été dans ce qui a été presque les bons coups de Rodez sur ce match. Et puis, on soulignera aussi, parmi les beaux gestes de ce match, la bicyclette de votre milieu de terrain, Lorenzo Rajo, dit Raginho. Entrée en fin de match. Celle-là, si elle va au fond, c'est le but de l'année.
Bon, on le renommera du coup lors des prochains commentaires, Jean-Charles. Lorenzo Rajo ne s'appellera plus ainsi, mais s'appellera donc Raginho. J'espère que vous l'avez noté sur vos petites fiches. On termine cette première partie avec le focus sur l'adversaire. Jean-Charles, ça vous va ?
Totem, le club sang et or.
Et oui, parce que la Ligue 2, ça ne s'arrête pas, ça continue. Dès ce week-end, on va se projeter sur la rencontre de ce samedi 19h au stade Polignon, réception de l'en avant de Guingamp, une équipe qui a joué ce lundi, qui a gagné 2-1 contre la GIA. Symbole de son niveau, rappelons que la GIA s'était imposée un petit peu plus tôt dans la saison contre Rodez, 3-1. Bon, les points positifs pour Rodez, c'est qu'il y aura peut-être un petit peu plus de fatigue dans les rangs de Guingamp, car moins de temps de récup. Et puis, Maxime Civis ne sera pas de la partie, car il a reçu un carton rouge direct contre Auxerre. Il y a eu également un expulsé du côté de Auxerre, mais bon, comme ça nous a reste un petit peu moins, on va pas nommer le joueur. Et c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'était un des joueurs qui était parmi les plus utilisés depuis le début de la saison, Maxime Civis, un élément essentiel de la défense de l'en avant de Guingamp. Bon, avec le résultat, les Bretons, eux, reviennent à un point des 5 premières places. Rappelons les forces quand même de cette équipe de l'en avant de Guingamp. Dans les buts, Enzo Basilio, ancien sans erreur, qui a porté à 32 reprises le maillot du RAF. En national, c'était en 2017 et 2018. De l'expérience dans les rangs de Stéphane Moulin, Dylan Wieser, le milieu de terrain couteau suisse, Gaëtan Courté, l'attaquant aux 76 buts en Ligue 2 depuis le début de sa carrière. Et puis l'homme fort dans les rangs rouges et noirs, c'est Amine Elouazani, 6 buts, 3 passes D depuis le début de la saison, ce qui lui a permis justement à Guingamp de s'imposer ce lundi contre Auxerre, puisque c'est lui qui a permis de marquer ce deuxième but pour Guingamp. Homme fort, je le disais, pourquoi ? Parce qu'il a joué lors des 13 dernières rencontres, plus de 1100 minutes disputées, l'attaquant de 22 ans est en passe en plus de battre son record de buts de l'année dernière, 7 réalisations l'été dernier et la saison dernière en 23 matchs. Bon, il faut préciser quand même qu'il en est pas très loin de ce record, il est à 6 réalisations, donc il aura encore le temps de scorer normalement. L'équipe descendue il y a maintenant 3 saisons en Ligue 2 espère retrouver la Ligue 1 dans les plus brefs délais, mais en tout cas le coup d'envoi de cette 14e journée en Rodez à Guingamp, ça sera samedi à 19h. Une dernière info au passage, au sifflet, ça sera un certain monsieur Bastien Deschepy.
Ah voilà. Oui, on est totalement
complet, c'est vrai qu'on l'a déjà vu.
Belle affiche, quand
arbitrer
même.
Arbitrer, c'est Rodez. Oui, belle affiche, effectivement, sur le papier. Du coup, c'est 6e contre 8e, si je ne m'abuse, si je reprends mes petites infos au moment où on se parle. Exactement, Guingamp 6e, Rodez 8e, donc évidemment, belle affiche du haut de classement du top 10. Coup d'envoi 19h au stade Paul Lignon. On espère vous y voir, évidemment, Raphaël Lipinski, notre invité dans le club Saint-Heure. Bon, c'est fini pour cette première partie. Mais on va détailler la préparation d'une rencontre dans la deuxième partie. Vous restez avec nous, Raphaël. Ça sera retrouvé en podcast sur notre site radiototem.fr.
Le club sang et or sur Totem. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la deuxième partie du Club 100 heures avec toujours Jean-Charles Virlogeux et Raphaël Lipinski, défenseur gauche du RAF. Dans cette deuxième partie, on va revenir sur la préparation d'un match, Raphaël. La préparation du match contre Quevilly, on l'a rappelé, a été tronquée, on en a parlé dans la première partie. Bon, c'est pas la première fois que le transport fait défaut à Rodez, mais malheureusement, c'est la première fois par contre que les joueurs de Rodez n'ont pas pu faire une étape à l'hôtel pour se préparer correctement. Un peu de temps calme avant une rencontre, ça fait toujours du bien. Quand on est au niveau district, même au niveau régional, les transports d'avant-match se font en voiture, des fois en minibus, et les équipes arrivent des fois 2 heures avant la rencontre, parfois un peu moins quand on est en district. Mais plus on monte dans le niveau, plus les plannings sont organisés, serrés et presque à la minute. Alors vous avez de l'expérience, Raphaël, avec notamment 2 clubs pro à votre actif, Rodez et Auxerre. Sans détailler, mais est-ce que chaque club a sa routine de préparation ou est-ce que les préparations de match se ressemblent finalement ?
Les préparations, elles se ressemblent à peu près, je pense, là, sur les 2 clubs où moi je suis passé. Il y a beaucoup de temps, c'est privilégié un temps avant les rencontres pour avoir un temps calme, faire la sieste, même s'il faut, surtout sur des matchs où on joue le soir, avec un repas plus tôt pour axer la digestion et pour que tout se fasse du mieux possible. Et pour avoir le plus d'énergie et être en forme à l'heure du match.
On va parler de Rodez, club qui connaît le monde pro depuis maintenant 5 saisons. Comment se déroule une journée type de préparation d'avant-rencontre quand l'équipe reçoit un adversaire à Paul Lignon ? Est-ce qu'il y a une préparation particulière ?
Oui, on a une préparation particulière. La journée, elle commence avec un travail vidéo sur l'adversaire en début de journée. S'ensuit le repas tous ensemble. Donc à un moment, tous ensemble, on se retrouve, on prend le temps de manger tranquillement. Suite à ça, on a l'après-midi où on est tranquille sur un temps calme, chacun chez soi tranquillement pour prendre le temps et bien se préparer au match. Puis on se retrouve pour la causerie à peu près 2 heures avant le début du match. Faire la causerie, prendre le temps, analyser le terrain et se changer dans la foulée.
La causerie, tout ça, ça se passe au stade. Hein.
Oui, tout ça, ouais. C'est au stade.
Est-ce que c'est marqué sur un petit tableau blanc, comme on a les images de France 98, le jour de la finale, où tout était marqué au stabilo sur un fond blanc ?
Non, c'est plus soit par écrit sur des groupes, ouais. Ou à l'oral. Mais
Il faut s'adapter à son temps, évidemment. En 98, il n'y avait pas tous ces moyens de communication. On parlait justement de cette préparation, du temps calme. Personnellement, vous faites une sieste, vous ?
Ouais, je préfère en faire une, que ce soit de 30 ou 40 minutes, histoire de reposer un peu la tête et l'esprit tranquillement, histoire de couper un peu, de s'évader un petit peu du match et de toute la journée.
Et c'est facile de dormir sur demande parce que...
Oui, c'est vrai que finalement, on coupe un peu le rythme.
Ouais. Oui, après le repas, il y a souvent un temps où on est un peu plus fatigué, où il y a la digestion qui se fait. Et
surtout c'est... après une bonne choucroute.
Oui, j'allais dire après un bon bœuf bourguignon, vous savez, on s'endort facilement, mais on aura l'occasion de reparler de la gastronomie et de la nourriture dans un second temps. Est-ce que quand l'équipe se déplace, la routine, elle est différente ?
Après, ça, il y a toujours
le transport
plus tôt le matin, mais sinon, après, on reste un peu dans les mêmes horaires sur le repas, sur la vidéo, la causerie, etc., dans la journée.
Il y a des camarades de chambre, par contre, quand on est en déplacement ?
Oui, on est plutôt 2 par chambre à chaque fois.
Toujours les mêmes ou...
Ouais, moi, je sais que je suis toujours avec Andreas Otunji, donc nous, on ne change pas. Je pense que tout le monde est comme ça, on reste un peu avec nos camarades.
Il y a des petites routines qui s'installent, effectivement. Restons sur ces préparations de match, ces déplacements. Partir le jour même, partir la veille, dormir sur place, c'est quoi votre sentiment par rapport à cette organisation-là ?
Je pense que l'organisation que nous, on opte, elle est bonne. Et nous, ce qu'on privilégie, c'est que quand on joue à 19h, on part le jour du match le matin. Et quand c'est des matchs comme à Bordeaux la semaine dernière, sur les matchs de 15h, on part la veille pour pouvoir avoir une nuit tranquillement, comme le match est plus tôt, avoir une bonne nuit de sommeil et pour être en forme pour le match.
Le cas, ce n'est pas encore présenté, mais pour une rencontre à 20h45, on prend l'avion le matin même si on doit se déplacer. Je suppose que c'est ce qui sera privilégié.
Mais après, je crois que contre 3, on avait joué à 20h45, c'était un peu plus tard. Quand c'était le match en semaine, on avait déjà 20h45, donc tout s'était un peu décalé, c'était juste une question d'adaptation,
on s'adapte.
Tout est un peu décalé d'une trentaine de minutes.
L'avion, le bus, le train, un souci d'écologie ou finalement qu'importe tant que le trajet se passe bien ?
Tant que le trajet se passe bien, je pense que nous, c'est ce qu'on veut en tant que joueur, que ça
Limousine.
Se passe bien. Non, là, je pense qu'il n'y aura pas assez de place, mais ouais, je pense que le principal, c'est qu'on puisse passer un transport agréable et que tout se passe pour le mieux.
Bon, tous les joueurs auront évidemment l'expérience des déplacements en voiture dans un premier temps quand on est tout petit, mm-hmm. puis plus on monte en âge et en niveau, évidemment, plus le transport est différent. L'importance du temps calme, du temps de repos avant une rencontre, justement, on en a parlé, c'est décisif.
Moi, je pense que c'est important. C'est important de bien prendre en compte ce temps-là pour pouvoir se faire du bien à l'esprit. Il peut même avoir des soins faits à ce moment-là pour être un peu plus frais. Mais je pense que ouais, c'est très important et il faut le considérer.
Dans la préparation d'une rencontre, toujours à l'extérieur, quelle est la chose la plus déterminante pour la bonne préparation d'un match, selon vous ?
La plus déterminante, je pense que... c'est ce qui se passe avant le match, quand on arrive au vestiaire, quand on sent l'ambiance tous ensemble, les premiers mots, les premiers mots qu'on va se dire, les derniers mots du coach avant de rentrer sur le terrain, avant l'échauffement, c'est ce moment-là qui est le plus déterminant.
Et alors l'alimentation, on en a parlé avec des petites blagues il y a un instant avec Jean-Charles, mais c'est vrai que l'alimentation, c'est évidemment très important dans la vie d'un sportif de haut niveau. On fait attention à son repas quotidiennement. Comment ça se passe ? Il y a des plannings peut-être qui sont déjà organisés ?
Non, du tout. Il n'y a pas de planning au quotidien, mais on sait qu'on est tous professionnels, donc on sait que l'alimentation rentre en compte dans nos performances.
Pas de fast-food ?
Pas souvent. On essaye d'en mettre un sur les lendemains de match ou sur le soir du match pour pouvoir se lâcher un peu. Mais la semaine, c'est très rare et il faut pas en vrai. Donc c'est mieux d'avoir une alimentation saine pour pouvoir être performant chaque jour, éviter les blessures aussi.
Et le jour J, alors, est-ce qu'il y a un repas préétabli ? Est-ce qu'il faut manger plus de pâtes, de féculents ? Est-ce qu'il faut manger de la viande, du poulet ?
Libre
à chacun ?
Pour le jour du match, il y a surtout des féculents avec des crudités en entrée, des produits laitiers en dessert. Après, ça dépend chacun. Il y a des joueurs qui préfèrent le poisson, d'autres le poulet, mais sinon, c'est surtout des féculents avec ça.
Après, donc, du coup, on a bien compris que c'était un peu libre à chacun. Mm-hmm. Mais il y a des produits qui sont préconisés.
Okay. Bien sûr.
Et on le sent d'ailleurs, ça, quand on fait un écart, si un jour on a mangé un peu des cochonneries, on le sent le lendemain à l'entraînement que...
On
n'a pas mis du bon carburant.
Ça peut. On peut sentir des petites gênes, des petites douleurs ou des petites courbatures qui sont dus au fait d'avoir mal mangé ou de ne pas avoir bien récupéré.
Et alors le sommeil dans cette histoire de préparation, ça a quelle part dans la vie d'un sportif de haut niveau ?
Je pense que ça a une grande part. Je pense que c'est au même niveau que l'alimentation. C'est quelque chose de très important. Si on n'a pas notre dose de sommeil nécessaire, on arrive fatigué à l'heure du match et on n'est pas performant. Donc le sommeil, c'est quelque chose de très important.
Médiatiquement, c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir des cas, des joueurs de foot qui sont des flambeurs de boîtes de nuit ou d'autres parties de jeux endiablés. Mais c'est vrai qu'on ne se met pas à la place du footballeur lambda.
Je ne vois pas de qui vous voulez parler.
Oui,
des joueurs qui n'ont pas bien mangé, bien dormi, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai qu'on ne se met pas à la place des footballeurs comme les footballeurs des Ligue 2 ou de Ligue 1 qui s'entraînent avec beaucoup de professionnalisme. C'est-à-dire qu'on a le cas dans les journaux des frasques de certains, mais... c'est pas la vie de tout le monde, quoi, c'est ça ?
Non, du tout. On essaye de rester sérieux, rester professionnel, parce que c'est sûr que ça peut amener des blessures, ça peut amener des mauvaises performances. Tout est lié, en vrai.
Donc une partie de poker en pleine nuit, ça vous est jamais arrivé ?
Non.
C'est vrai que ça ne doit pas être facile, avant des matchs couperets, de bien dormir. Il doit y avoir des matchs stressants ou la veille...
Oui, ça peut arriver, mais c'est pour ça que la sieste est aussi là pour compenser rattraper. Si jamais il y a une mauvaise nuit la veille. Mais je pense que la plupart du temps, même s'il y a un peu le stress du match, quand on arrive sur l'heure de dormir, ça se fait tout seul.
Allez, dernière question sur la préparation avant de vous libérer. Est-ce que vous prenez en compte l'adversaire ? Est-ce que vous, à titre personnel, vous analysez, vous regardez les adversaires qu'il y aura potentiellement en face de vous ? Ou ça, vous dites, on verra le jour J, on verra le jour du match ?
Non, je pense que toute la semaine, on se focalise plutôt sur nous pour pouvoir améliorer ou corriger ce qui s'est mal passé la semaine d'avant. Mais plus on se rapproche du match... plus il y a un œil qui est tourné vers l'adversaire, vers nos adversaires directs. avec
savoir s'il est gaucher, droitier.
Exactement, c'est devenu très important. Il y a cette capacité d'analyse aussi qui rentre en compte pour que nous puissions faire un bon match et s'adapter à l'adversaire en face.
Avant de vous libérer, on a juste une question auditeur que l'on nous a laissée sur Messenger. C'est Julien qui a posé cette question. Il vous demande, vous qui êtes passé par Auxerre, quels sont les points communs entre les deux villes et les deux clubs, entre Auxerre et Rodez, et quelles sont les différences, si vous deviez un petit peu synthétiser tout ça?
Je pense que quelque chose d'indéniable. Je pense qu'au niveau des différences, il y a le budget. Après, au niveau des points communs, c'est deux clubs qui ont énormément d'ambition, qui veulent voir toujours plus haut et qui il n'y a pas de plafond aux ambitions et aux objectifs qu'il peut y avoir. Et je pense qu'au niveau des villes aussi, c'est un peu des villes qui sont semblables, des villes un peu tranquilles où tout le monde se connaît, où il y a une bonne ambiance qui règne.
Voilà pour la réponse que l'on peut apporter à Romain. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Julien.
Julien. Bah écoutez, j'ai écorché un peu son prénom. Ça s'est pas entendu, quasiment pas. Merci en tout cas, Raphaël Lipinski, défenseur.
Merci beaucoup.
Piston, ça vous va?
Piston, ça me va très bien.
Piston gauche de Rodez. On vous souhaite une belle semaine d'entraînement et évidemment, bonne rencontre ce samedi. Coup d'envoi à 19h. On sera là dès 18h45 sur Totem. Rencontre face à Guingamp. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Totem, le club sang et or.